A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Vienne, New York, Paris, le Danube, Canal Street, la Seine, Giraudoux, Hugo, Duras, mais aussi Rilke pour la langue maternelle et aujourd'hui Claudel pour la langue passionnelle. C'est une comédienne avec un léger accent de froufrou viennois dans la voix qui est assise dans le fauteuil dans sol majeur, et ça c'est une chance car elle prend facilement l'avion pour un auteur ou pour une écriture. Son nom, mesdames, messieurs, Jutta Johanna Weiss, blonde et sans âge, et qui depuis toujours joue dans une autre langue que dans sa langue maternelle. Actuellement à l'affiche du partage de midi dans une mise en scène d'Éric Vignier et aux côtés de Stanislas Nordet, elle campe une amante de Claudel au cœur total. Jutta Johanna Weiss, sans partage, c'est maintenant sur RFI. Bonjour et guten Tag, Jutta.
Bonjour, guten Tag. Danke.
Qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites pas de théâtre ?
Ah, le théâtre, c'est le centre de ma vie.
Impossible de vous décentrer ?
Je peux faire beaucoup de choses à côté, des choses quotidiennes, des choses de la vie, aider ma famille, avec d'autres choses, mais le centre de ma vie, c'est le théâtre.
Et faire une interview à la radio, est-ce que c'est faire un peu de théâtre ?
Je ne sais pas.
Faut essayer.
Oui.
On va voir ça. Donc, je vous emmène tout de suite pour commencer dans les limbes d'un petit souvenir viennois.
Wander Herrgott, net nutzt es gar nix. Schrei nicht um, bleib schön stumm, sag, das war nix. So war's immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal oben, einmal und, einmal Freud, einmal Leid. Wann der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, sag, es war nix. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, denn der Herrgott
T comme théâtre de l'enfance
has immer.
Alors là, on est un peu dans votre enfance viennoise, Jutta Johanna Weiss. Ça ressemble... Ça déclenche quoi, je dirais, ce genre de musique, de ritournelle ?
Yeah, ça déclenche beaucoup de choses. Il y a donc Michael Heltau qui chante, qui est un de nos chansonniers, qui est au-delà de 80 ans et qui est encore sur la scène aujourd'hui. Mais ça déclenche beaucoup de choses parce que c'est la douceur de la langue. C'est quelque chose, oui, qui est en rapport avec... une humilité, je dirais, dans le message. Ça parle de... ça va bien dans la vie, une fois ça va moins bien dans la vie. Il ne faut pas perdre la tête. Il faut prendre la vie comme elle vient. Et le bon Dieu sait toujours pourquoi les choses arrivent.
Vienne, en tout cas sur les prospectus, pour les touristes comme nous, comme moi, c'est la ville de Mozart et de Sigmund Freud. Vous y êtes né en 1969. C'était comment le Vienne de ces années-là ?
Mais Vienne était en construction. C'est une ville qui a toujours été une ville liée à la musique. C'est une ville... qui a des cafés, qui a des endroits cachés. C'est une ville qui a une particularité aussi par rapport aux gens qui, d'un côté, sont capables de boire du bon vin, de chanter, d'être très très joyeux, et de l'autre côté, qui ont aussi une forme de relation avec les morts.
C'est-à-dire
quelque chose qui cherche toujours en profondeur, pour ne pas dire qu'il y a la moitié de la ville après-guerre qui avait été aussi un cimetière. Il y a des gens qui étaient enterrés aussi dans les parcs. On a quand même une situation de destruction en partie de la ville derrière nous aussi, sous reconstruction. Et relation avec l'âme profonde et aussi l'humour de pouvoir en rire, bien sûr.
Est-ce que la comédienne que vous êtes, et qui apparemment ne trouve son oxygène que dans la poussière des théâtres, vient d'une famille d'artistes ?
Non. Non, une famille de voilà, couturier, ouvrier, menuisier, petit commerçant, mais pas du tout artistique, non.
Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Jutta Johanna Weiss, à Vienne en 1985, au théâtre an der Josefstadt, autour de Intermezzo de Jean Giraudoux?
Non, ça, c'était ma première expérience au théâtre. Et c'est arrivé par hasard, parce que c'est arrivé par un voyage à Venise, où nous avons donc cherché un restaurant. Ils sont tombés sur un couple d'Autrichiens sur un pont.
Ça et commence comme une pièce de théâtre.
Voilà, tout à fait.
On est dans le partage.
On est tout à fait sur un pont. Et c'était en fait un couple qui commençait à parler de Salzbourg, du festival qui était en train de se jouer. Il était évident qu'ils avaient affaire à du théâtre. Et moi, j'ai quand même eu une envie très forte, c'est de regarder un metteur en scène travailler.
Vous avez quoi, 15 ans à ce moment-là?
Et 16 ans. Finalement, je suis allée voir. Et la chose la plus étonnante, comme j'avais 16 ans, le nom Gottfried Reinhardt, là, du coup, un couple hein, qui avait 75 ans, ne sonnait pas. Parce que j'avais pas de culture par rapport à ça. Mmh, encore.
Mmh. Qu'est-ce qui se passe alors?
Qui est Gottfried Reinhardt? C'est le fils de Max Reinhardt. Et le fils de Max Reinhardt, c'est comme un de nos plus grands metteurs en scène du début du XXe siècle. Et le directeur du théâtre, il m'a reçu et il m'a écouté. Et après une demi-heure, il a dit, ben, vous allez jouer.
Qu'est-ce qui se passe sur le plateau pour vous?
Ah yeah, non, mais le plateau, c'est la rencontre avec l'espace. Et d'abord, l'espace vide. Parce qu'ayant 16 ans, j'ai passé beaucoup de temps dans ce théâtre vide, sur le caisson du souffleur, qui était là encore à l'époque. C'était une notion de l'espace très, très étrange et tout à fait rempli par, voilà, encore une fois, des esprits qui vivent dans les théâtres. Et quelquefois, voilà, il y a des acteurs qui arrivent et les esprits restent, et après, il y a quelquefois des acteurs qui arrivent et l'esprit ne reste pas. Et s'en va.
Alors, l'atmosphère viennoise et Rachmaninov circule en vous, apparemment, Jutta Johanna Weiss. Je sens que ça va faire bon ménage, ça, sur nos platines en sol majeur. Pourquoi est-ce que vous vouliez entendre du Rachmaninov?
Mais voilà, ça porte des sons qui me touchent, donc. Oui, parce que c'est dissonant, quelquefois. Ce n'est pas que des consonances. C'est dissonant. Ça amène ailleurs.
Bienvenue sur RFI, nous sommes au théâtre et sur un pont, sur le pont d'un bateau en partance pour l'Orient. Une femme rayonne sur ce pont, c'est Isée, incarnée par Jutta Johanna Weiss, notre invitée en sol majeur. Trois hommes sont à ses côtés, on a De Cise, son époux, Amalric, avec qui elle va fuir, et Mesa, le double de Claudel. Décor sombre, un rideau de liane lumineuse derrière les acteurs. Isée cherche un peu son équilibre dans sa robe pompadour et elle s'entretient avec Decize.
Et vous ? Est-ce que vous me connaissez ? Est-ce que vous savez que je suis ? Un homme, ça ne connaît pas plus sa femme que sa mère, 10 ans. Maintenant, ma jeunesse est passée et tout ce que je pouvais vous donner, je l'ai donné. Ne me laissez donc point seul alors qu'il y a quelque chose qui vient de finir. Ne sois pas absent.
Je vous connais mieux que moi-même. Vous êtes fière Isée avec moi. Je vous connais trop pour penser que vous vouliez jamais vous donner aucun tort avec moi.
Je le sais. Je sens en moi une tentation. Je ne suis plus cette jeune fille que vous avez prise. Vous ne m'avez pas ménagée. Je ne suis pas intacte. Croyez-vous que je ne serve qu'à faire des enfants? Et est-ce que c'est pour rien que je suis belle? Qui m'aura? J'aurais voulu empêcher qu'il n'y eût rien d'autre. Moi, je suis bien à lui. Est-ce que ce n'est pas assez? Il y a une certaine totalité de moi-même que je n'ai pas fournie. Il y a une certaine mort que je saurais lui donner. Et est-ce que je ne suis pas belle?
C'est comme... Côté cour, côté jardin.
Avec cet extrait en sol majeur de l'acte 2 du partage de midi, donc dans une mise en scène d'Éric Vignier, on a la Chine, on a l'amour de plusieurs hommes pour une même femme, on a la religion. En fait, Partage de midi est une pièce écrite en 1905, hein, j'ai regardé, une pièce complètement autobiographique de Paul Claudel, Jutta Johanna Weiss.
Oui, oui, c'est une pièce que Claudel écrit dans la douleur d'une séparation après avoir vécu un amour qui restera l'amour de sa vie. Donc... Claudel, Paul Claudel, si je peux me permettre, c'est quand même un personnage avec plusieurs chemins de vie dans une vie extrême. Donc, en tant que diplomate à l'époque, soi-disant en 1900, en tant que diplomate, il s'installe en Orient, à Shanghai d'abord, à Fuzhou après, en tant que personne sur le chemin de la foi, il a eu une rencontre avec Dieu et il écrit, et c'est un écrivain merveilleux. Alors quand il revient en 1900 pour décider peut-être d'aller dans un cloître, il est en lien avec les choses très très mystiques, mais il reçoit une réponse qui est une forme de non-réponse. Ça veut dire Dieu lui dit non sans le dire, et il retourne en Chine. Donc, sur le retour en Chine, il a 32 ans, il est vierge. Et sur ce bateau, il rencontre une femme qui est mariée, qui a 4 enfants, Rosalie Vetch. Il tombe amoureux de cette femme.
C'est une Polonaise, hein ?
C'est une Polonaise. Aristocratie polonaise, mélange d'aristocratie polonaise et d'un aristocrate de l'Écosse, le mari, Decize. Et en 1904, elle tombe enceinte de lui. Ça cause un incident diplomatique quand même. Donc, mais en tout cas, elle reprend le bateau pour la France, laisse 2 de ses enfants en Chine, amène 2 de ses enfants en France, enceinte de Paul Claudel, et rencontre sur ce bateau donc M. Lindner, écrit encore 2 cartes postales... qui disent à peu près ça va bien, je peux pas beaucoup t'écrire parce que je suis assez occupée, et après plus rien.
Pendant 12 ans. Donc ça c'est l'argument, mais de quel partage s'agit-il dans cette pièce ?
Tout est partagé. Si la totalité est l'homme qui est partagé entre plusieurs choix, c'est le partage du même âge, c'est le milieu de la vie. Et bien sûr, il faut dire que le 3e acte est un peu visionnaire.
C'est-à-dire ?
Mais parce que dans le 3e acte, il quitte l'autobiographie. Et dans le 3e acte, il le mène dans la guerre des boxeurs, qui a quand même rendu la situation très très difficile pour les gens de la France qui étaient installés là-bas. Il y a une vraie révolte armée très difficile. Elles ont fait, finalement, tout le monde meurt dans cette pièce. Mais à la fin de cette pièce-là, et il fait une forme de mariage mystique.
Entre... Oui, c'est ça. La question comme ça qui sous-tend toute la pièce, c'est est-ce que les noces auront lieu avec l'amour, l'amour charnel, ou avec, avec Dieu ?
Non, en fait, il met l'amour tout court au-dessus de tout. Le thème qui se retrouve de toute façon dans Partage de Midi, Paul Claudel avait vu Wagner, il a dit qu'il a été influencé par ça aussi.
Avant de vous écouter dans un court extrait de ce Partage de Midi, Yuta, j'aimerais savoir pourquoi simplement ce rôle intéresse l'actrice que vous êtes.
Ah ben c'est un des plus rôles de femme du monde. Et il est très mystérieux.
Pourquoi c'est un beau rôle de femme ?
Mais parce que c'est une femme libre.
À un moment donné, elle a cette phrase, est-ce que je suis une femme ou est-ce que je suis un homme ?
Ah ben voilà. Ben voilà, on est au milieu du sujet. Bien sûr, je suis un homme, bien sûr. Aussi. Bien sûr, je suis une femme. Et bien sûr, je suis un homme. Et je porte tout en moi. Moi, je comprends, mon bien-aimé. Et je suis comprise. Et je suis la raison entre tes bras. Et je suis Isée, ton âme. Et que nous font les autres ? Mais tu es unique, et je suis unique. Et j'entends ta voix dans mes entrailles comme un cri qui ne peut être souffert. Et je me lève vers toi, avec difficulté, comme une chose énorme et massif et aveugle et désirante et taciturne. Mais ce que nous désirons, ce n'est point de créer, mais de détruire. Et que... Ah, il n'est plus rien que toi et moi. Et en toi que moi. Et en moi que ta possession et la rage et la tendresse. Et de te... détruire et de n'être plus gêné détestablement par ces vêtements de chair et ces cruelles dents dans mon cœur. Ce n'est point le bonheur que je t'apporte, mais ta mort et la mienne avec elle. Mais qu'est-ce que cela me fait que je te fasse mourir et moi? Et tout, et tant pis, pourvu qu'à ce prix qui est toi et moi, donné, jeté, arraché, lacéré, consumé, je sens ton âme, un moment qui est toute l'éternité, toucher, prendre la mienne.
Yuta Yona Weiss, 10 ans du Claudel, un moment en sol majeur de voilà, bah voilà, du théâtre radiophonique, une petite minute de théâtre radiophonique, cher Yuta. C'est pour dire qu'il y a évidemment le rôle dont on pourrait parler très longuement dans ce Partage du Midi, mais il y a aussi la langue. Et vous qui cheminez dans cette langue française depuis plus de 30 ans maintenant, tout en ayant une autre langue intime, on y reviendra. J'aimerais savoir ce qui se passe entre vous et la langue claudélienne, qui n'a pas reçu que des éloges, hein, d'ailleurs. Oui, on l'a traitée, on a moqué sa lourdeur, on a moqué son souffle pneumatique, je cite, et son catholicisme exalté.
Yeah, mais c'était une découverte. Au-delà de la lecture, c'est aussi la découverte... avec ses partenaires, parce qu'elle a de toute façon...
Mais je reste sur la langue. C'est la découverte d'une diction, c'est la découverte aussi d'un rythme, d'un souffle particulier.
C'est un souffle particulier, mais c'est très érotique.
Éclairez-nous.
Non, il fait l'amour avec les mots. Vraiment. C'est un amoureux de mots. C'est quelqu'un qui a une capacité de cheminer par les mots. parce qu'on navigue, on découvre, on peut naviguer parce qu'on ne sait pas où on va avec la phrase. C'est le contraire en allemand. En allemand, j'ai besoin de la penser, de savoir où je vais pour pouvoir la dire. Le français permet cette navigation dans les sensations, dans les perceptions, dans une pensée, dans une rage, dans une émotion. Mais c'est une émotion des mots, de la respiration, mais par contre de beaucoup de mots. Mmh.
Sans être trop technique, on va essayer, en ayant travaillé comme vous l'avez fait hier avec Anatoli Vassiliev et aujourd'hui avec Éric Vignier, est-ce que vous diriez que vous êtes autant une comédienne du corps qu'une comédienne de texte ? C'est pas forcément antinomique, hein, mais...
Complètement
du corps. Mais parfois on peut reprocher aux comédiens français de ne pas avoir de corps. Vous avez déjà entendu ça, cette remarque-là ?
Oui, mais je crois que c'est aussi une question de formation, parce que j'ai eu la chance à New York d'avoir une vraie base de danse classique qui reste pendant longtemps, même si vous ne la pratiquez pas toute la vie, d'avoir eu un professeur de Martha Graham, de la danse contemporaine. J'ai la chance d'être née à Vienne, donc, où on apprend à 16 ans les danses de salon pour pouvoir faire les bals. Vraiment, de la valse, le foxtrot, le tango, toute la base pour pouvoir se jeter sur un parquet et danser toute une nuit.
Mm-hmm. Et c'est pour ça que vous avez l'air d'être née aussi dans une robe Pompadour sur scène.
Et oui. Mais c'est la première fois que j'en ai porté une aussi belle, puis qui a bien sûr sa propre vie.
Évidemment.
Aussi, bien sûr.
Et puis il y a la méthode Vassiliev dont on parle souvent. Est-ce que ça consiste à travailler par les pieds, la méthode Vassiliev ?
Vassiliev, c'est sans doute une présence, c'est sans doute aussi la question éternelle de comédien, qu'est-ce que c'est un acteur, la notion du rôle, c'est pas un vêtement, un rôle, hein. Et d'ailleurs la notion de rôle, de toute façon, elle est compliquée, parce que bien sûr vous créez des choses avec le corps, avec la voix, mais c'est un tout, c'est pas psychologique en tout cas seulement. Donc voilà, le corps c'est comme une maison, un acteur c'est aussi comme une maison. Et un acteur, meuble sa maison.
Vous qui introduisez presque toutes vos phrases avec ce petit mot allemand, also, Jutta, j'ai remarqué ça. Est-ce que ça vous irait d'entendre un peu votre langue maternelle, l'allemand ? Oui, on y va. Certains se souviennent sans doute d'Oscar Werner. Si je dis ce nom comme ça, ça ne dit pas forcément quelque chose, mais en fait c'est ce comédien viennois qui était le Jules dans Jules et Jim de Truffaut. Ça y est, vous avez l'image, c'est bon. Et c'est lui qui nous lit une petite page de Rainer Maria Rilke.
Der Tod der Geliebten. Er wusste nur vom Tod, was alle wissen. Dass er uns nimmt und in das Stumme stößt. Als aber sie, nicht von ihm fortgerissen, nein, leis aus seinen Augen ausgelöst, hinüberglitt zu unbekannten Schatten. Und als er fühlte, dass sie drüben nun wie einen Mond ihr Mädchen lächeln hatten und ihre Weise wohl zu tun, da wurden ihm die Toten so bekannt, als wäre er durch sie mit einem jeden ganz nah verwandt. Er ließ die anderen reden und glaubte nicht und nannte jenes Land das Gutgelegene, das immer Süße und tastete es ab für ihre Füße.
Le poète de la mélancolie lumineuse, on pourrait le présenter comme ça sur RFI, c'est Rainer Maria Rilke en VO. Alors sans traduction, c'est déjà de la musique, mais on veut bien les paroles, Jutta Johanna Weiss. Mais en deux mots, qu'est-ce que ça dit ?
En deux mots, ça parle de la mort de la bien-aimée, de la mort de l'être aimé, la femme aimée. Donc ça va bien avec le partage et il n'a pas peur d'aller dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Et de la suivre, parce que ça lui semble sucré. Il la voit comme une jeune fille.
Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous entendez Cette langue, qui est donc votre langue maternelle et que peut-être vous ne pratiquez plus si souvent.
Oui, très ému. De toute façon, Oscaverna, pour moi, c'est une voix qui restera toute ma vie très présente. Il y a lui, il y a la voix de Klaus Maria Brandauer.
Donc ce sont des voix endormies, tapies en vous ?
Mais vivant, pas du tout vivante, t'es... oui.
Oui, endormie.
Also, oui.
On est encore vivant quand on est endormi.
Oui, c'est ça. Yeah, yeah. Nein. Also, je les trouve très beaux. Je suis très sensible aux voix. Et j'ai un partenaire dans Partage de Midi, avec une très belle voix aussi, Stanislas Nordet.
Mais parce qu'on pourrait s'imaginer, je faisais allusion à ce petit mot-là qui arrive spontanément au début de vos phrases, also. Et bien, il y en a d'autres, hein, je ne pourrais pas les redire. Vous savez, j'ai fait allemand en seconde langue, alors vous voyez, les pauvres restent. Mais ça veut dire quand même qu'elle est là, cette langue, elle est derrière la porte. Elle nourrit le travail de comédienne francophone que vous êtes devenue ?
Quand je suis en France, je rêve en français. Quand je retourne dans mon pays, je rêve dans ma langue. J'ai fait un examen, par exemple, où vous êtes endormi pendant un petit moment à Vienne, et là, du coup, je parlais en français. Donc, bien sûr, ça se mélange.
Welche Worte können Sie nur in Ihrer Muttersprache sagen? Quels sont les mots que vous ne pouvez dire que dans votre langue maternelle?
Ich liebe dich.
Ach so.
Mais ach so, mais... Mais ça, je ne peux que le dire. Mais c'est vrai. C'est difficile d'exprimer l'amour dans une autre langue.
Pourtant, vous jouez Claudel, vous jouez...
Non, mais
du
ça,
rah.
Oui, mais ça, c'est pas mal.
Mais vous jouez...
Non, je parle d'exprimer... Ou d'être vraiment en colère, ou de... En fait, quand on a des émotions très fortes d'un côté et de l'autre, oui, c'est... Quelquefois, c'est difficile encore de les faire entrer après un certain temps, hein, mais je veux dire, de le faire entrer dans... Je parle de la vie privée, hein, je parle pas du plateau. La vie privée, elle est timide. La vie privée, elle change quand on vit dans plusieurs langues, parce qu'on ne parle pas facilement pour ne rien dire.
C'est pas forcément un mal.
Et on, en fait, c'est pas qu'on s'observe parler, mais on est très sensible au bruit. On n'a pas trop envie de faire du bruit.
Ou des fautes.
Ah bah des fautes, j'en fais, j'en ferai. Non, non, mais c'est ça, c'est un apprentissage qui ne finira jamais.
Bah, c'est le moment, je vais vous faire monter sur les tréteaux de RFI avec un extrait en allemand du partage de midi.
Ja. Ich begreife. Moi, je comprends, mein Geliebter, mon bien-aimé. Und ich bin begriffen. Et je suis comprise. Und meine Absicht liegt in deinen Augen. Et je suis la raison entre tes bras. Und ich bin easy. Et je suis easy. Deine Seele. Ton âme. Was kümmern uns die anderen? Et que nous font les autres? Du bist doch einzig. Mais tu es unique. Und ich bin einzig. Et je suis unique. Und ich vernehme deine Stimme in meinen Eingeweiden. J'entends ta voix dans mes entrailles, comme un cri qui ne peut être souffert. Einen unerträglichen Schrei. Et je me lève vers toi. Und ich erhebe mich zu dir. Avec difficulté. Schwer. Comme une chose. Wie etwas Riesiges. Enorm. Und Gewaltiges. Et massif. Und Blindes. Et aveugle. Und Verlangendes. Et désirant. Und Schwein. Et taciturne. Aber wir sehen uns nicht danach zu schaffen. Mais ce que nous désirons, ce n'est point de. Sondern zu zerstören. Créer, mais de détruire. Und das. Et que. Nichts sonst sei als du und ich. Il n'est plus rien que toi et moi. Und in dir nichts als ich. Et en toi que moi. Und in mir nichts. Et au moins que ta possession. Als deine in Besitz nehmen und die Wut. Et la rage. Und die Zärtlichkeit. Et la tendresse. Und et de te. Dich zu zerstören. Détruire. Nicht mehr abscheulich behindert sein von diesem fleischlichen Gewand. Et de n'être plus gêné détestablement. Und diesen grausamen Zähnen in meinem Herzen. Par ces vêtements de chair. Es ist nicht das Glück, das ich dir bringe. Et ces cruelles dents dans mon cœur. Ce n'est point le bonheur que je t'apporte.
Es ist der Tod
mit der Mort
und der meine mit ihm
et la mienne avec elle.
Yuta Johanna Weiss sur RFI pour en sol majeur. Je remarque la grande sensualité avec laquelle vous enveloppez cette langue allemande. Oui, bah oui, et je le dis en pensant et en me disant autre chose, le fait que cette langue allemande ait été marquée du sceau nazi il y a longtemps maintenant, mais elle a été marquée par cette histoire. Est-ce que c'est en, vous diriez que c'est en lien inconsciemment avec la distance que vous avez prise par rapport à cette langue, ou bien non, les choses peuvent se raconter comme un coup de foudre pour une autre langue qui se trouve être le français?
Il y a le coup de foudre et il n'est pas explicable. Ça me semble d'être très, très loin. Loin dans le sens que si on croirait dans une autre vie, on dit « Mais pourquoi toi, tu réagis à ce son ?» Oui, j'ai réagi à ce son et je l'ai travaillé et je l'ai poursuivi sans jamais imaginer de pouvoir travailler dans le théâtre français. L'allemand, c'est un tout petit peu compliqué parce que j'ai donc grandi avec les voix de Oscar Werner, il y a les Hörbiger, les Wessely, un allemand viennois, Prague. On peut mentionner Prague. Mmh. C'est un certain son. Ça serait trop de dire qu'il y a une différence comme l'américain et l'anglais. Mais on entend très bien si quelqu'un vient de l'Autriche ou si quelqu'un vient de l'Allemagne. L'allemand de l'Allemagne est plus dur. Donc, l'intérêt qui est venu pour le théâtre, au Burgtheater à Vienne, il y avait beaucoup d'acteurs allemands qui arrivaient sur cette scène. Mais sur cette scène-là, oui, je n'ai plus trouvé ma langue, en fait. J'ai trouvé le sens, j'ai trouvé tout ce qu'il faut, mais ça veut dire qu'il y avait un son qui a disparu.
L'allemand n'était pas votre langue de jeu.
Oui.
Ce n'était pas votre,
votre donc identité il y a quelque chose
linguistique sur un plateau.
Sur un plateau, ouais.
Comment vous expliquez ça?
C'est un de ces points non résolus aussi. C'est très difficile de dire pourquoi en allemand...
C'était pas vous.
Ça ne s'est pas fait, pour l'instant.
Point de suspension.
Point de suspension.
Quel est votre sol majeur?
Vienne.
Ah oui?
Oui.
Parce que j'avais l'impression que vos maisons, je dis vos maisons,
oui,
sont forcément des maisons de théâtre surtout.
Oui, mais ça c'est sûr. Ah, c'est ça, oui. Mais vous pouvez me la reposer, alors.
Quel est votre sol majeur, Yuta Johanna Weiss?
Le plateau.
Mais vous avez dit Vienne, quand même.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe là-bas encore, pour vous?
Un tout. Je suis lié à Vienne, ma famille qui est là-bas, donc je retourne et je suis quelqu'un qui a quand même besoin un tout petit peu. Je suis un voyageur, j'ai toujours voyagé, j'ai toujours quitté, je suis toujours parti aussi, mais...
Comment on dit « je me vis en voyageur » Comment on dit ça en allemand?
Das ist ein schönes Wort, das heißt, das Wort Erfahrung fällt mir jetzt dazu ein, auch wenn das jetzt nicht genau übersetzt, was Sie gesagt haben. Erfahrung ist ein Wort, c'est je me mets en route, et par ce biais-là...
J'ai eu peur que vous partiez là, que vous ne reveniez pas vers nous.
Je pars, je fais une expérience. Le mot expérience contient le fait de se mettre en route.
Donc vous vivez, pour le dire simplement, avec les auteurs que vous jouez le plus souvent.
Bien.
Un petit exemple avec Marguerite.
On chassait. C'était des enfances très différentes de celles d'ici. Mais on était plus des Vietnamiens, vous voyez, que des Français. C'est ça que je découvre maintenant, c'est que c'était faux, cette appartenance à la nationalité française. Tout, on parlait, nous, les Vietnamiens, comme des petits Vietnamiens. On ne mettait jamais de souliers, on vivait à moitié nus, on se baignait dans la rivière, ma mère, elle. Bien sûr, non. Elle n'a jamais parlé de vietnamien, elle n'a jamais pu l'apprendre, c'est très difficile. J'ai passé mon bac avec le vietnamien. En somme, j'ai appris que j'étais française, vous voyez. Ma mère me le répétait souvent, vous qui êtes française. Un jour, elle est allée à Saigon, elle a ramené des pommes rainettes. Je ne sais pas comment on les appelle, ces pommes rouges. Et elle nous a forcés à en manger, on ne pouvait pas les avaler. Quoi. C'est que c'était du coton, que ça ne se mangeait pas. On ne pouvait pas manger de la nourriture française. J'ai fait une sorte d'anorexie, moi j'avais 10 ans, à Phnom Penh. On me forçait à manger des beefsteaks, je vomissais les beefsteaks. On était de là-bas.
Alors, est-ce que le fait que Duras soit né en Indochine vous rapproche étrangement d'elle, Jutta Johanna Weiss?
Oui. Oui.
Définitivement.
Oui, définitivement, oui.
Mais pourquoi, diantre?
Parce que la langue française, elle est attaquée dans le bon sens. Ça veut dire qu'elle est activée par un certain côté, par le biais d'une autre culture aussi. Quand elle a vécu son enfance en Indochine, elle a vécu avec un autre son dans l'oreille. Et quand elle écrit, dans un premier temps, c'est magnifique de l'écouter. Parce que vous voyez bien que c'est quelqu'un qui parle comme il écrit. Ça m'émeut beaucoup de l'entendre. Moi, j'ai eu la chance de travailler deux textes, une adaptation de La Bête dans la jungle, d'après Henry James, qu'elle a fait. Et donc la partie Hiroshima, mon amour, de sa mise en scène Pluie d'été à Hiroshima. Il faut dire que cette langue qui peut sembler zen, qui contient, comme on dit, Eric il dit toujours, c'est le haut de l'iceberg, cette langue, soit elle contient beaucoup, beaucoup d'informations, a toujours été très difficile d'aborder.
C'est quoi la difficulté essentielle de la langue durassienne?
Mais justement, parce qu'elle dit beaucoup de choses avec très peu de mots. Ça semble simple.
Donc vous, pour dire la langue de Duras, on va vous entendre dans une seconde, on sent qu'il y a un processus d'effacement de quelque chose.
D'effacement de quelque chose, et surtout pas de priorité. C'est pas le mot. J'emploie pas tous les mots comme il faut. Je suis une étrangère, c'est dit dans le partage. Attention. Non, alors, oui, c'est par effacement dans le sens que... Mais c'est comme la mer.
Laquelle?
Mais je veux dire les vagues, quand la mer elle arrive et quand elle repart, ça amène des choses et ça les efface, oui, c'est ça.
Tu n'as rien bu à Hiroshima. Rien.
J'ai tout vu. Tout. Ainsi l'hôpital, je l'ai vu. J'en suis sûr. L'hôpital existe à Hiroshima. Comment aurais-je pu éviter de le voir?
Tu n'as pas vu d'hôpital à Hiroshima. Tu n'as rien vu à Hiroshima.
4 fois au musée.
Quel musée à Hiroshima?
4 fois au musée à Hiroshima. J'ai vu les gens se promener. Les gens se promènent, pensifs, à travers les photographies, les reconstitutions, faute d'autre chose. À travers les photographies, les reconstitutions, faute d'autre chose, les explications. Faute d'autre chose. 4 fois au musée à Hiroshima. J'ai regardé les gens. J'ai regardé moi-même pensivement le fer. Le fer brûlé. Le fer brisé. Le fer devenu vulnérable comme la chair. J'ai vu des capsules en bouquet. Qui aurait pensé? Des peaux humaines, flottantes, survivantes, encore dans la fraîcheur de leur souffrance. Des pierres brûlées, des pierres éclatées, des chevelures anonymes que les femmes du Hiroshima retrouvait tout entière tombée le matin, au réveil.
Mmh. Un extrait en sol majeur d'Hiroshima, mon amour, sur RFI, donc dans une mise en scène de votre cher et tendre Éric Vignier. Je crois que c'est clair, là, on est dans une de vos maisons de théâtre, Jutta Johanna Weiss, avec donc cette langue durassienne. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est tellement compliqué d'en parler clairement. Est-ce qu'on peut la présenter comme une langue sans affect?
Non, c'est le contraire. Comme je dis, quand on l'entend parler, c'est quelqu'un de très passionné.
Question à celle qui est née dans la langue de Rainer Maria Rilke. Est-ce qu'il faut être étranger à une langue pour être un bon comédien?
Non, en tout cas, c'est très intéressant de pouvoir le faire.
C'est une expérience assez rare de quitter une terre et une langue pour jouer dans une autre langue.
Yeah. On ne croit pas trop. C'est plus facile de voyager en orchestre et la musique et la danse. Et c'est drôle qu'on ne croit toujours pas ce que les langues véhiculent dans les différents pays au niveau du théâtre et avec des beaux textes. Et moi, j'y crois.
Vous êtes aujourd'hui une sorte d'étrangère familière à notre langue. On pourrait vous présenter comme ça, Jutta. Reste votre accent qui a évolué au cours du temps?
Avec l'alphabet phonétique international, on peut l'améliorer. Mais là, ça tombe bien parce que Claudel, c'était une Polonaise. Là, je me suis laissée travailler comme je suis, avec le petit reste d'accent qui reste. Oui, l'accent restera toujours. Et d'ailleurs, même pour Marion Delorme, quand je suis arrivée pour Les Alexandrins...
De Victor Hugo.
De Victor Hugo.
Votre premier texte en français que vous jouez.
Mon premier texte en français, mon premier rôle en France, qui m'a coûté beaucoup de travail pour l'Alexandrin. Mais quand je suis allée commander un café dans le café après, je me suis dit « Ah, c'est quoi votre petit joli accent? Il vient d'où ?» Et tu te dis « Ah là là, tu travailles pour le plateau, que l'accent disparaît, qu'on n'entend rien, il faut perfectionner. »
Là, c'est la dictature du théâtre un petit peu qui joue, parce que l'accent, ça fait partie de l'identité aussi.
Oui, ça fait partie de l'identité, mais comme vous savez, je suis passé par les États-Unis. De toute façon, si vous êtes étranger, vous êtes attribué à un rôle d'étranger.
Alors vous qui vivez au pays des accents, au pays de la fiction, au pays du théâtre, Jutta, je vous emmène dans un autre pays, au pays du « j'aime, j'aime pas ».
Vous ne craignez pas la fureur de votre roi?
Les froncements de sourcils, c'était avant. Aujourd'hui, ils veulent élire un nouveau roi. À cette image, mon cerveau se remplit d'étranges pensées de désespoir, des pensées tourmentées d'un martyr sans fin, où je ne trouve de réconfort qu'à sentir la couronne sur ma tête. Allons, laissez-moi la porter encore un petit moment.
Monseigneur, le Parlement exige une réponse immédiate, alors parlez. Abdiquez-vous, oui ou non?
Je n'abdique pas! Tant que je vivrai, je serai roi.
J'y comme j'aime.
Franz, je vais faire quelque chose qui va peut-être te surprendre et que le cérémonial de la cour n'a pas prévu. Mais c'est pour toi et pour ton pays.
Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire.
Colonel, veuillez dire au comte Andrassy que je l'ai choisi comme cavalier.
À vos ordres, Majesté.
J'y comme j'aime, j'aime pas.
Les clichés. Il y en a eu un gros, là. Romy Schneider dans Sissi, impératrice.
Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, ça a été réhabilité, je crois. Parce que, bon, bien sûr, c'est un cliché. Bon, on l'accepte.
En souriant.
Bah, bien sûr, en souriant. Bien sûr.
Dans un autre genre, Philippe Clévenot, qu'on écoutait juste au début de ce « J'aime, j'aime pas ».
Oui, mais alors, quelle langue?
Alors, Molière du meilleur comédien pour son interprétation de Louis Jouvet dans Elvire Jouvet 40 en 1987 de mémoire. Hein, c'est juste pour situer le comédien. Qu'est-ce qui vous intéresse chez Clévenot?
Je crois que c'est rare d'entendre le français comme ça. Proche de la langue chantée, très capable d'un grand mysticisme, une grande pensée. Et très concret dans les pensées, mais pas sec.
Un sol majeur.
@rfi.fr.
Vous retrouver ou vous découvrir sur scène, c'est possible, Jutta Johanna Weiss, puisque vous êtes notamment du 29 janvier au 16 février au Théâtre de la Ville, installé au Théâtre des Abbesses, donc dans Le Partage de Midi, mis en scène par Éric Vignier, aux côtés de Stanislas Nordet. On va essayer de patiner merveilleusement dans un rêve familier avec du Léo Ferré chantant du Verlaine. Vous me dites, vous me faites des yeux énormes, mais vous savez, à la radio, les yeux énormes.
Ça se voit pas. Oui. Ah, je suis contente.
Vous êtes contente?
Ah oui, bien sûr.
Pourquoi vous aimez Léo Ferré chantant Verlaine?
Mais
faut expliquer ça aux nouvelles générations.
Au risque de me répéter, c'est les voix, c'est les personnalités, c'est cette langue, c'est les textes, bien sûr, parce que bon, du français, il faut dire que c'est arrivé avec les vinyles et avec les dos de vinyle aussi. C'était ça l'apprentissage.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans.
Écoutez la chanson, bientôt ce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fut connue et chère, mais à présent elle est voilée comme une veuve désolée. Pourtant comme elle est encore fière, et dans les longs plis de son voile qui palpite aux brises d'automne, cache et montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle dit l'avoir reconnue, que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie, rien ne reste, la mort venue. Elle parle aussi de la gloire, d'être simple sans plus attendre, et de noces d'or, et du tendre bonheur d'une paix sans victoire. Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épitalame. Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. Elle est en peine et de passage, l'âme qui souffre sans colère. Et comme sa morale l'éclaire, écoutez la chanson bien sage. Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de l'amour.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis votre petit jeu favori, celui des podcasts avec notre application Pure Radio et bien sûr derrière le poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel, ça nous fait donc 15h à Paris. Tania Tsikounas, Sophie Janin, Yasmine Chouaki, on vous retrouve et on vous espère demain avec Laurent Bounic. À demain.